marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
13h31 sur France Inter, Jean Lebrun, la marche de l'histoire.
Bonjour Bruno, alors bonjour, un titre Jean. Énigmatique, Hachette et le financement des campagnes électorales. C'est pas du tout que Hachette ait les mêmes moyens que la Libye, on n'est pas en 1965, parce qu'il sera peut-être question du financement de la campagne de 1965 comme en 2017 ou en 2012.
C'est donc si passionnant l'histoire.
Et la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
La puissance d'Hachette et le financement des campagnes électorales.
Le journal le matin.
Ah, il n'existe pas le journal le matin.
Le petit parisien alors.
Ah oui, voilà. Alors un journal du matin, voilà le petit parisien.
C'est ça, Paris Soir est paru.
France Soir, oui.
Non, Paris Soir.
Non, France Soir. Paris Soir n'existe plus. C'est France Soir et Paris Presse. Paris Presse à 1h30. France Soir.
Pourquoi ils changent tout comme ça, là? Ça vaut combien, ça?
30 centimes.
30 centimes? Ben, ça a drôlement augmenté, j'aime autant vous le dire, hein.
Nous sommes dans un kiosque d'après-guerre, la caméra invisible. Pas de liberté de la presse sans liberté et impartialité de la diffusion. La loi Bichet proclame ce principe, voté au printemps 47, elle est toujours en vigueur. Mais pour combien de temps? Les kiosques parisiens sont actuellement alimentés aux trois quarts par Presstalis, dont l'actionnaire de référence fut jusqu'en 2009 Hachette. On parlait alors des nouvelles messageries de la presse parisienne. La vente des journaux papier étant en chute libre, Presstalis se retrouve aux abois, peine à payer ce qu'elle doit aux éditeurs, tandis que les kiosquiers, dont le métier devient de plus en plus acrobatique, crient à juste raison misère. La loi Bichet les oblige à recevoir beaucoup de titres, dont il leur faut manipuler ensuite les invendus, et on leur dit que sa suppression constituerait une solution. Ils pourraient choisir entre les publications. Cap sur la dérégulation. La loi Bichet, c'est la butte témoin qui demeure du grand effort de moralisation de la presse de 44-46. À l'époque, l'offre fut complètement bouleversée par l'irruption des titres issus de la clandestinité qui reprirent les locaux et les positions de la grande presse qui avait failli. Il est de bon ton aujourd'hui de dire que les journaux dirigés par les résistants étaient trop idéalistes, pas assez capitalisés pour préparer l'avenir. L'assertion convient à l'ère du temps que nous vivons. L'examen d'une grande entreprise de l'époque la dément. Il s'agit d'Hachette. À la Libération, ses compromissions passées avaient fait perdre au groupe ses précieuses messageries. Néanmoins, en l'espace de moins de 3 ans, il récupère ses pions et davantage. Comment ? Et qu'a fait l'entreprise des bénéfices accumulés pendant les années dorées sur tranche qui ont suivi ? A-t-elle bien préparé l'avenir de la presse? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a su garantir son avenir politique en soutenant discrètement nombre d'hommes politiques, pas nécessairement de droite. Le président d'Hachette des années 50-60 aimait dire que le Palais Bourbon était son zoo personnel.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Yves Mollier, bonjour.
Bonjour.
Historien réputé de l'édition, de l'imprimé, habitué à travailler sur archives et qui publie chez Perrin un livre qui aurait pu s'appeler, mais c'était peut-être trop restrictif, le roman des messageries de presse et qui s'appelle, je vous reconnais bien là, l'âge d'or de la corruption parlementaire. Enfin, il y a eu beaucoup d'âge d'or de la corruption parlementaire et pas seulement celui que vous considérez. Tenez, si on regardait l'avant-guerre. Alors, Hachette, avant-guerre. On dit la librairie Hachette, mais enfin, la moitié du chiffre d'affaires, c'est la messagerie.
Voilà. Les deux messageries de librairie, c'est-à-dire pour le transport des livres et de presse pour le transport des journaux, représente très exactement 50% du chiffre d'affaires et un peu plus d'ailleurs pour les bénéfices.
L'immeuble de la messagerie, c'est 111 rue Réaumur.
Oui, c'est le 111 de la rue Réaumur, mais en réalité, cela, c'est un immeuble, une sorte d'ensemble immobilier qui déborde très largement de la rue Réaumur et qui sera vendu pour une fortune dans les années 1980.
Pendant la guerre, Hachette.
Hachette pendant
point
la guerre.
Suspension.
Hachette, lorsque les Allemands rentrent dans Paris le 14 juin 1940, ils s'emparent évidemment des messageries. Ils ont une presse en allemand qu'ils entendent diffuser et ils vont faire appel aux meilleurs professionnels. De ce point de vue-là, ils reconnaissent la technicité des messageries de presse d'Hachette. Mais Ils vont également s'entendre avec d'autres entreprises parce que tous les journaux n'avaient pas confié leur messagerie à la librairie Hachette. Je pense notamment au Petit Parisien qui était un des premiers journaux de l'époque. Donc il va y avoir une sorte de coopérative, d'ailleurs c'est le nom qu'elle va prendre, la coopérative des messageries de presse qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va regrouper à la fois les intérêts d'Hachette et puis un certain nombre de partenaires. Et naturellement, sous l'autorité et le contrôle des Allemands.
Vous voyez que Hachette ne porte pas toutes les responsabilités. D'autant qu'il y a une faiblesse quand même dans votre livre. Vous dites, page 29, les archives de la librairie Hachette ont été soigneusement épurées et modifiées à la Libération afin d'en faire disparaître les traces de collaboration. Alors
oui,
comment les trouvez-vous, vous ?
J'ai trouvé un document qui demande effectivement au personnel des archives Hachette à la fin de l'année 1944 de réécrire les comptes rendus des conseils d'administration en fonction de trois critères, à supprimer, à modifier ou à conserver. C'est donc la preuve formelle, elle est rare. C'est rare, on n'a pas cette preuve pour les banques, mais naturellement, l'immense majorité des banques a réécrit ses archives. De ce point de vue-là d'ailleurs, j'observe que les historiens sont un peu naïfs quand ils font trop confiance aux archives qu'ils trouvent, en oubliant comment et pourquoi elles ont été conservées.
Alors à propos d'épuration, la moralisation de l'acte 1, 1944-1945, dans la nouvelle histoire de la presse, commence par l'irruption de titres qui étaient parus clandestinement, qui vont maintenant être au grand jour et s'installer dans les locaux avec les imprimeries, des titres qui ont failli. André Diligent, futur sénateur du Nord et grand défenseur de l'idéal résistant de la première voie du Nord.
Il avait été décidé par les ordonnances de l'Assemblée consultative d'Alger et du gouvernement provisoire en avril, je crois, 1944, que les anciens titres, sauf exception légitime, ne pourraient plus paraître. Selon une phrase qui était, je crois, de Malraux, ils étaient enfouis dans la fosse commune des déshonneurs nationaux. Ça, c'était un point de vue. Il fallait de nouveaux journaux, puisque les anciens journaux avaient servi de véhicule à la propagande allemande. Je ne porte pas de jugement de valeur, je constate. Il fallait donc que cette ancienne presse soit remplacée par une nouvelle. Mais qui pouvait se targuer du droit de faire paraître un nouveau journal, étant donné la pénurie de papier, étant donné tous les problèmes élémentaires que reposait l'apparition d'un nouveau journal?
On a commencé par occuper tous les locaux laissés vides par les autres, c'est-à-dire tous les collabos. Alors on a occupé le siège du RNP de DA, on a occupé l'immeuble où il y avait, je crois, le Parisien Zeitung, qui était là, l'immeuble de François de la rue Réaumur, où s'en trouvaient les trois journaux Combat, Franc-Tireur et plus tard Défendre la France, François. Et ça s'est fait gentiment, parce que les gars, ils s'étaient taillés depuis longtemps, donc il n'y a pas eu vraiment de lutte acharnée pour prendre les journaux.
Il y avait des problèmes, et de concurrence, et de rivalité, et de jalousie, et d'identification, parce que tout était clair pour les journaux, comme Paris Soir, je suis partout, les journaux qui étaient à l'évidence des journaux allemands, c'était moins clair pour beaucoup d'autres publications, qui n'avait pas été très courageuse, mais qui n'avait pas non plus sombré dans la véritable trahison.
Philippe Bochart est la dernière voix qu'on entend, celle de Pierre-Henri Tedjen, qui fut ministre de l'Information après la Libération, démocrate chrétien, MRP. Notez d'ailleurs la distinction, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'il fait entre les publications les plus coupables et les autres avec lesquelles on pourrait transiger. On parle d'occupation de locaux, ou de libération de locaux, ceux d'Hachette. Et les activités d'Hachette en matière de messagerie ?
Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont continué
à
messager à la fois la presse française collaborationniste et la presse allemande. Ils ont gagné énormément d'argent, l'équivalent de 2 millions d'euros par mois. Donc, ils se sont retrouvés à la Libération avec un trésor de guerre. Et c'est pour les punir, en quelque sorte, que les résistants ont décidé non seulement d'occuper les imprimeries de presse, mais d'occuper également le siège des messageries Hachette afin de remettre ce siège aux résistants qui, avec le personnel, allaient créer une nouvelle coopération coopérative pour donner à la France un service public.
Mais on va y venir à cette coopérative, mais avant de revenir à la messagerie, l'impression de ces journaux issus de la Résistance, c'est qui ? C'est le syndicat du livre ?
Non, alors,
qui perdure l'impression ?
L'impression des journaux, elle était assurée dans la Résistance par les résistants. Et souvent dans des imprimeries qui, en cachette, évidemment au risque et au péril de leur vie, imprimaient ces journaux. Le syndicat du livre, lui, il travaillait de manière tout à fait officielle. C'est-à-dire que le syndicat du livre travaillait dans les imprimeries des journaux collaborationnistes ou des autres journaux qui étaient en zone non occupée tant qu'il y a eu une zone occupée. Et puis ensuite, donc le syndicat du livre, lui, il avait négocié avec Jean Luchaire, il avait négocié des accords très importants. Il avait obtenu un 13e mois à Noël, un 14e mois au mois de janvier, des œufs de Pâques à Pâques et toute une série d'avantages sociaux. Lui, il considérait que sa tâche, au fond, c'était d'améliorer la condition des salariés qu'il représentait. À la Libération, il va négocier avec les résistants et obtenir le monopole de l'embauche. Donc il a gagné sur toute la ligne de ce point de vue-là.
La Fédération nationale de la presse française est constituée avec les nouveaux arrivants. Et puis, dans cette fédération, il y a un syndicat des éditeurs de journaux parisiens, mais les voici tous réunis, les provinciaux et ceux de la capitale, dans un grand banquet en août 1945.
Les 500 directeurs des journaux de Paris et de province, qui depuis deux jours siègent à la salle Pleyel à Paris pour discuter des intérêts de la presse française, sont rassemblés à nouveau ce soir, avec leurs invités, dans le grand foyer du palais de Chaillot, où un banquet de 1000 couverts a été servi. Le menu était des plus choisis. Mais voici l'heure des discours. Monsieur Albert Baillet, qui préside cette cérémonie, s'est levé.
Mesdames, Messieurs, je voudrais dire à nos amis et à nos chefs du gouvernement, dire à tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette réunion, nous ne sommes pas, et nous ne voulons pas être, et nous ne serons jamais les continuateurs et les successeurs de la presse pourrie qui a amené la France par la honte à la trahison et au désastre. En d'autres termes, nous ne sommes pas des marchands de papier cherchant à vendre leurs journaux. Nous considérons que la mission de la presse n'est pas une mission commerciale, que c'est une mission idéaliste. Notre second devoir et de respecter scrupuleusement la vérité des faits et de faire en sorte que ne reparaisse jamais dans notre pays la presse du mensonge ou la presse des nouvelles savamment truquées. Et enfin, notre dernier devoir est de porter, même dans les polémiques, le scrupuleux respect de la pensée des autres et de favoriser ainsi l'union de tous les Français.
Alors, ces journaux probes, il faut tout de même les mettre en paquet, en souche, ficeler les souches, les acheminer, des camionnettes, des motocyclettes, des voitures jusqu'au kiosque. Et juste au même moment où se tient ce banquet, alors on en revient
au messagerie. C'est le banquet de la première Assemblée nationale de la presse française. Le terme est important. Une Assemblée nationale de la presse chargée de moraliser la conception, la production et la diffusion de la presse. Albert Baillet n'était pas n'importe qui. On dit souvent qu'il était professeur de sociologie à la Sorbonne. Mais qu'est-ce qu'il enseignait en réalité ? Il enseignait la morale. C'est donc un homme profondément inspiré par un idéal, comme il le dit, et qui considère que l'ensemble des résistants, croyant au ciel ou n'y croyant pas, partagent la même aspiration.
Oui, mais moi j'en reviens à mes souches, mes paquets, Jean-Yves Meulier. Donc à peu près au même moment, se créent les messageries françaises de presse qui prennent le relais d'Hachette.
Voilà, leur premier nom c'est le Groupement National des Journaux et Publications, 1944. Un an plus tard, mais avec effet rétroactif, elles deviennent les messageries françaises de la presse. C'est-à-dire un service public qui va être une sorte de coopérative qui va réunir à la fois les ouvriers, les employés, les techniciens des messageries, les dirigeants des journaux qui vont déléguer un certain nombre d'entre eux pour gérer en commun avec eux, et puis des journalistes bien entendu, pour co-gérer cet instrument extraordinaire qui doit permettre que le journal qui va tirer à 1 million d'exemplaires ou à 2 millions d'exemplaires comme avant la guerre et au journal qui ne va tirer qu'à 10 000 exemplaires, d'être présent partout sur l'ensemble du territoire. C'est la grande idée, l'égalité au fond de placement.
qui contrôle effectivement cette coopérative? Qui fait les souches et les paquets et distribue? C'est des ouvriers
milliers,
du livre?
Plusieurs milliers de salariés. Alors, ils n'ont pas encore le statut des ouvriers du livre. Ils ne l'obtiendront qu'en 1947, mais c'est à peu près l'équivalent. En effet, ce sont des ouvriers syndiqués à la CGT. C'est le syndicat, pas tout à fait unique, mais enfin le syndicat le plus important en région parisienne à la Libération. Donc, ce sont des ouvriers et des employés adhérents de la CGT qui font ce travail physique avec les journalistes qui appartiennent à la Fédération nationale de la presse française.
Il faut le dire parce que ça va être dans le deuxième acte qui va se jouer dans un instant un facteur assez important. 1946, on prépare un statut de la presse. Gaston Defferre, secrétaire d'État à l'information, s'y emploie.
Si vous me permettez, c'est important parce qu'on en reparle aujourd'hui. On cherche effectivement, on se demande aujourd'hui s'il ne faudrait pas une sorte de comité déontologique. En effet, la grande idée des résistants, c'est qu'il faut un statut de la presse. La presse ne peut pas continuer à fonctionner comme elle l'a fait dans l'entre-deux-guerres, où elle était effectivement aux ordres du capital, comme disaient un certain nombre de pamphlets. La presse pourrie aux ordres du capital, c'est le titre d'un pamphlet, d'une brochure socialiste, même pas communiste, de l'entre-deux-guerres. Donc il s'agit avec le statut de protéger à la fois les journalistes et de permettre aux lecteurs d'obtenir une presse relativement objective.
Mais en 1946, les communistes, les socialistes, les démocrates chrétiens, souvent très vertueux, semblent être d'accord. On met Jean-Yves Mollier sur pause un instant parce que je voulais vous faire entendre ce qui se passait à la radio à la même époque. Depuis décembre 1945, il y avait tous les midis une émission en direct, en public, en extérieur, animé par Jean Nohain et ses camarades qui portaient le surnom de Baladin, François Châtelard, de Troubadour, Georges Gosset et de Marquis Saint-Granier.
Et voici, présenté par les parfums Mon Savon, On chante dans mon quartier, une émission de Georges Gosset et François Châtelard. Monsieur l'agent, à vous le signal. Eh bien, Troubadour vous dit bonjour,
Baladin vous salue bien,
et le Marquis vous donne un baiser ensoleillé.
Ah. Eh bien, Marquis, malgré le soleil et la chaleur, dites-nous où nous sommes aujourd'hui.
Eh bien, nous sommes à Chelles, coquette localité, je ne dirais pas des environs de Paris, parce que Chelles, c'est Paris. Nous sommes sur une magnifique pelouse, et il y a des marronniers.
C'est des platanes ?
Pardon, c'était des marronniers l'année dernière, cette année ils sont devenus platanes par économie.
Eh bien mes chers amis, la municipalité de Chelles nous a permis de dresser nos tréteaux sur la place des martyrs de Châteaubriand. Je veux respectueusement saluer leurs souvenirs et m'excuser auprès d'eux d'être frivole devant leur sévère gloire. Mais je suis sûr qu'ils ne m'en voudront pas de venir donner un peu de joie. Eux qui sont morts pour que leurs enfants puissent vivre et rire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le roman des messageries de presse, l'âge d'or de la corruption parlementaire, selon Jean-Yves Mollier, un livre chez Perrin. Nous parlons de la presse en 1947 maintenant. Le climat a changé. Les 27 otages fusillés par les Allemands en 41, à Châteaubriand, ils sont quand même morts, comme le dit Jean Nohain, pour que nous soyons libres de rire, de chanter avec Mon Savon. Mais c'est pas de Mon Savon que nous allons continuer à parler, mais d'Hachette. Ça fait un moment qu'on a laissé Hachette de côté. Hachette, ce tapis dans l'ombre.
Oui, Hachette a un objectif très simple à la Libération, récupérer ses messageries. 50% du chiffre d'affaires, elle ne peut pas accepter l'idée que ce soit nationalisé, quelle que soit l'idée que l'on mette derrière la nationalisation. Elle va donc... La librairie Hachette, c'est son nom officiel. Jusqu'en 1971, c'est le nom avant que ça ne devienne un groupe. La librairie Hachette va essayer d'établir des contacts, et elle va réussir à établir des contacts avec un certain nombre d'hommes politiques. Avec l'entourage de Pierre Mendès France, avec l'entourage du futur président de la République, Vincent Auriol, avec l'entourage et avec le futur président du Conseil, Félix Seguin, avec François Mitterrand, avec toute une série, avec Jacques Chaban-Delmas,
bien sûr, pas, oui.
Avec Édouard Herriot, président de l'Assemblée nationale à cette époque-là.
Tous ces gens disent faut faire la distinction entre les vrais collaborateurs et puis ceux dont il faut respecter le droit à la propriété privée parce qu'ils n'ont pas beaucoup fauté.
Au fond, Le problème qui s'est posé, c'est que les résistants avaient établi une règle qui paraît simple. On supprimait, on interdisait tous les journaux qui avaient continué à paraître 15 jours après le mois de juillet 1940 en zone occupée et 15 jours après le mois de novembre 1942 pour la zone non occupée. Sur le papier, ça posait pas de problème. Dans la réalité, ils n'avaient pas tous collaboré au même degré, c'est une évidence. Et donc, lorsqu'il a fallu appliquer, c'est devenu compliqué. Mais pour ce qui concerne la librairie Hachette, elle, son objectif stratégique, c'est de récupérer ses positions. Pour y parvenir, elle va jouer sur deux tableaux. Le personnel politique, qu'elle va essayer de corrompre, bien entendu.
On ne va pas redire les noms, on les
Absolument,
a entendus.
Tout à fait. Et en même temps, elle va jouer sur le fait que le général de Gaulle vient de nationaliser un certain nombre de banques, les banques de dépôt, mais qu'il n'a pas touché aux autres banques. Et donc, c'est avec quatre grandes banques que la librairie Hachette va travailler pour obtenir un véritable trésor de guerre et pouvoir mettre sur pied une organisation concurrente de la diffusion.
L'expéditive.
L'expéditive.
Alors là, c'est un roman. Vous racontez comment les coursiers de la coopérative, les messageries françaises de presse dominantes, et puis ceux de la petite expéditive font les rodéos la nuit, et puis peu à peu, l'expéditive décroche.
Elle décroche parce qu'elle a de l'argent.
Elle décroche des contrats avec Combat, le Populaire, le Journal des Socialistes.
Elle va décrocher des contrats parce que la presse issue de la Résistance, elle n'a pas d'argent. Et au fond, devant le chant des sirènes, lorsqu'il s'agit d'équilibrer les budgets, de boucler les fins de mois, eh bien effectivement, Combat, toute une série de journaux, et même Le Populaire de la SFIO, et puis Défense de la France, devenu François fin 44. Tous ces journaux vont finalement, j'ai oublié Le Parisien Libéré, bien sûr, qui est très important,
journal.
Ces journaux vont accepter de passer à l'ennemi en quelque sorte, c'est-à-dire de rompre l'unité qui était celle de la Résistance.
Est-ce que l'unité n'est pas rompue aussi au syndicat du Livre, qui en février-mars 1947 qui, au syndicat du Livre, lance cette grève, met en panne les journaux pendant 31 jours.
Il y a pléthore de journaux, détresse de trésorerie pour la plupart. La grande grève des typographes de février 47 précipite la crise. Paris est privé de journaux pendant 31 jours. Les informations sont données par affiche et aux parleurs.
Monsieur le ministre, j'ai demandé à vous voir, pour connaître et faire connaître aux auditeurs de la radio, dont vous êtes l'ami, votre opinion sur les principaux problèmes intéressant la presse. En ce qui concerne la grève des journaux parisiens qui irrite, à juste titre, l'opinion publique, tout au moins à Paris.
Sur la grève, je voudrais précisément attirer l'attention du public. Nous sommes en présence de revendications qui sont présentés par un syndicat, par une corporation, qui compte parmi les syndicats privilégiés. Au moment où s'est posé, et où a été posé pour le gouvernement, le problème du réajustement de certains salaires anormalement bas, nous ne considérons pas comme justifiés, dans les circonstances actuelles, les demandes qui nous sont présentées par une catégorie de travailleurs qui compte parmi les privilégiés. Sur ce point, il nous est impossible de céder. Si nous cédions dans une conjoncture comme celle-là, nous aboutirions à un drame incomparablement plus grave que même la crise de la presse. Ce serait la démission de l'autorité de l'État. Ni le gouvernement, ni moi-même, tant que je serai à ce poste, ne céderons sur ce point.
Pierre Bourdan, ministre de l'Information. En fait, les ouvriers du Livre vont obtenir des augmentations de salaire. Cette grève va mettre à genoux la messagerie coopérative qui va devoir cesser ses activités. Mais d'où elle vient cette grève?
Voilà.
Il y en a qui ont dit que c'est des trotskistes, des anarchistes.
Tout à fait. Pour bien comprendre cette grève, d'abord il faut rappeler que la France continue à avoir faim et à avoir froid en 1947, qu'il y a toujours des tickets d'alimentation. Mais parmi la masse des ouvriers, les ouvriers du Livre ne sont pas les plus malheureux. Et c'est ce que dit en substance Pierre Bourdan, c'est ce que dit également la CGT, c'est ce que dit Ambroise Croizat, le ministre du Travail.
Communiste.
Et donc, il considère, le communiste Ambroise Croizat, qui considère que cette grève est illégitime. Et à la SFIO, on dit la même chose. Le syndicat général du Livre et Industrie Connexe, pour lui donner son nom, c'est un ensemble de 15 sections très différentes. Vous en avez qui sont réformistes, d'autres anarchistes, d'autres trotskistes, d'autres communistes, et qui ne sont unies que sur un seul point, obtenir le maximum d'avantages. En revanche, elles se déchirent entre elles. Et à cette époque-là, il est probable, effectivement, que la librairie Hachette est parvenue à enfoncer un coin, comme on dirait, entre un certain nombre de sections syndicales. Et elle a obtenu, effectivement, de prolonger la grève pendant 31 jours, ce qui a donné le coup de grâce aux messageries françaises de presse.
Et qui remplace les messageries françaises de presse, les nouvelles messageries de la presse parisienne, et qui contrôle les nouvelles messageries de la presse parisienne? Chacun l'aura deviné, c'est Hachette.
Mais grâce au vote de la loi Bichet, qu'on continue à appeler loi Bichet, dont je dis dans mon livre qu'elle a été rédigée dans les locaux de l'expéditive par les avocats de la librairie Hachette, avec le beau-frère de Jacques Chaban-Delmas, André Schmitt, qui était son chef de cabinet. Et donc, cette loi a été faite directement par la librairie Hachette pour récupérer ce qu'elle avait avant la guerre.
Et donc, cette loi, c'est un peu un paravent, dites-vous, et c'est le point d'orgue de l'effort de moralisation. Alors, Hachette va gagner beaucoup d'argent avec les messageries, et le patron d'Hachette, semble-t-il, a, comment dire, acheté des parlementaires, rémunéré des parlementaires, mensualisé des parlementaires pendant longtemps, vous avez un ou deux noms?
Oui, on en a la preuve au moins pour la campagne des législatives de 1967, parce qu'il reste un résidu, une sorte de trace dans les archives des NMPP, une pochette marquée « Contact politique Réaumur NMPP », dans laquelle on voit que François Mitterrand touchait l'équivalent de 4 000 à 4 500 euros par mois en 1967 pour préparer les élections législatives. Il était président de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste.
Oui, mais avant, il y avait eu une campagne présidentielle, la première,
bien
en
sûr.
1965.
Et pour cette première campagne électorale, effectivement, où le général de Gaulle va être mis en ballotage, il y a eu une débauche d'argent de la part des NMPP. Le directeur, Guy Lapeyre, a voulu faire battre le général de Gaulle. Il a dépensé énormément d'argent, d'abord pour faire élire Gaston Defferre, Monsieur X, mais ça a avorté, puis Jean Le Canuet, qui l'a soutenu au premier tour, et ensuite François Mitterrand au deuxième tour.
On lui laisse la parole, au candidat de 1965.
Croyez-moi, mesdames et messieurs, la justice, c'est bien où elle se trouve, elle est à gauche. La justice, lorsque la gauche est au pouvoir, elle est offerte à tous les Français. Mais seule la gauche la comprend, parce que la droite, elle préfère l'ordre social qu'elle a construit. Pour elle, la justice, c'est l'auxiliaire de sa police. Mais pour la gauche, c'est la justice qui est l'idéal. Et l'ordre qu'il faut construire, c'est l'ordre de la justice. Voilà pourquoi, en vous quittant, quelles que soient les fatigues que je puis éprouver au cours de ce long chemin, je sens l'envie de vous remercier, car j'ai trouvé par vous encore un peu plus de courage pour aller plus loin.
En tout cas, conclut Jean-Yves Meulier dans L'âge d'or de la corruption parlementaire chez Perrin. Quand finalement François Mitterrand sera élu en 81, c'est sûr, Hachette ne sera pas nationalisée. L'émission était préparée par Franck Olivard, Théo Gomard à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Et très vite, le relais avec vous, cher Mathieu Vidard, dans
voilà,
un instant.
Les relations sexuelles entre patients et médecins, dans un instant.
Ce sera La tête au carré.